Pour le moment, nous accueillons Magali au 3921. Bonsoir Magali.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Merci de me recevoir.
Je vous en prie. D'où nous appelez-vous Magali ?
Du sud-ouest.
Du sud-ouest, très bien. Mmh. Qu'est-ce qui vous amène Magali ?
Bah, en fait, je reviens un peu sur... vous avez parlé à une amie, Isabelle.
Oui, oui.
Qui parlait un peu des placements abusifs d'enfants.
Mmh.
Et donc, voilà, je reviens un peu dans le cadre de notre collectif, en fait. On veut un petit peu débloquer la situation de tous ces parents. Donc, on cherche vraiment des actions concrètes et des solutions ensemble.
Oui.
Donc, voilà, je voulais rebondir un petit peu sur ce qui s'était dit et voilà, éclaircir un peu... Tout ce qui est un peu l'idée des placements abusifs, qui est un peu alarmant pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents à l'heure actuelle.
Vous en êtes
vraiment de très nombreux.
Vous en êtes vous-même victime, Magali ?
Alors, je ne tiens pas à exposer ma situation personnelle, hein, mais je pense que les parents qui, on va dire, qui sont un peu sujets, on va dire, ça peut être les prémices ou ça peut être le placement. S'y intéresse forcément. Je pense que pour s'y intéresser, il faut que soit un proche soit dans cette situation ou nous-mêmes, ou être sensibilisé par quelqu'un.
Sur la vie d'une connaissance, un ami.
Voilà, exactement. Mmh. Je pense qu'il n'y a que ça. Parce que sinon, les gens qui n'ont pas affaire à ça ne peuvent pas prendre conscience forcément de l'ampleur des dégâts, si je peux dire. Donc, voilà.
Mais, en fait, vous voulez dire quoi sur ces parents, en fait ? Parce que vous avez un collectif, il en a beaucoup.
Oui.
Mais,
alors, de collectif, pas vraiment.
Non, de parents, je voulais dire, pas de collectif.
Ah oui, oui. De parents, il y en a énormément. Je pense qu'on ne peut même pas les comptabiliser. Alors, pour vous donner... une petite idée d'un chiffre, même que ce ne sera pas forcément clair, mais ça pourra donner quand même une petite idée. Alors, j'ai commencé à vouloir justement, dans ce cadre-là, trouver des solutions, trouver du soutien de parents qui, justement, connaissent un peu et dans la situation, des choses comme ça, se soutenir entre nous en tant que parents. Et ben j'ai mis mon numéro sur un site. Donc, quand sur Google, on tape placement abusif, parce que ce que tout le monde fait maintenant de nos jours, on a une maladie, on se pose la question sur un sujet, on tape sur Google. Et donc, dans les premiers sites, il y a un article qui est assez bien fait. Et du coup, j'ai mis mon numéro et j'ai eu, en l'espace de 2-3 mois, une centaine de parents qui m'ont appelé, en seulement 2-3 mois, une centaine de témoignages de parents. Donc, pour vous dire un peu l'ampleur, et encore, ses parents m'ont appelé, mais c'est seulement ceux qui ont fait la démarche de m'appeler. Il y a ceux qui sont arrêtés à l'article, il y a ceux qui ont peut-être vu dans les commentaires, qui ont peut-être vu les commentaires, mais qui n'ont pas pris la décision de m'appeler. Donc, c'est pour vous dire que c'est une petite goutte d'eau, comme on dit, dans un océan, que les personnes, la centaine de parents qui m'ont témoigné, c'est vraiment... c'est vraiment pas grand-chose, je pense, par rapport à ce que l'idée qu'on peut se faire du nombre de parents qui vivent ça en ce moment même. Et ça depuis, on va dire, une bonne quarantaine d'années, parce qu'on dénonce ça depuis très longtemps maintenant. C'est pour ça qu'il serait grand temps, au jour d'aujourd'hui, que ça bouge, vraiment.
Et comment voulez-vous que ça bouge, alors ? Expliquez-nous un peu. Parce que alors, je dis que dans les lois, le bien-être de l'enfant doit être privilégié, bien évidemment, et oui. Le placement doit être pratiqué en cas de maltraitance. Mais pour il y a énormément de placements pratiqués par l'ASE qui sont des abus réels.
Voilà. C'est ça le problème. C'est vraiment que les placements abusifs, c'est ça. C'est quand il n'y a pas d'urgence, justement, quand il est ordonné le placement, alors qu'il n'y a pas de maltraitance avérée.
Et comment prévenir alors à ce type de situation ?
Alors justement, en ce moment, bon, c'est le début. Moi, je peux vous dire que ça fait quelques mois déjà que je me suis intéressée au sujet, donc c'est vraiment long. On n'a pas assez de temps, mais dans le cadre de notre collectif, justement, de parents, on a commencé déjà, dans ce qu'a fait Isabelle, à documenter, à vouloir sensibiliser les députés qui devrait être justement qui devrait nous aider en fait à trouver des solutions. Nos dirigeants, on compte un peu sur eux pour nous aider dans cela, parce qu'il y a vraiment des choses importantes à corriger. Et si on n'est pas aidé un peu par nos dirigeants, par qui? Justement, c'est ça le gros problème des placements abusifs, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de recours. On n'a pas de recours parce que au niveau judiciaire, hein, l'appel, hein, au niveau de l'appel aussi, c'est coincé. La plupart des parents qui font des retours de l'appel se retrouvent encore coincés. Ça veut dire que ce n'est pas la solution non plus. Même les avocats, c'est très compliqué. Vraiment, au niveau judiciaire, on est bloqué. Donc, quelle solution maintenant? Il y a quand même des directeurs, conseil département, enfin conseil général. Hein. Là aussi, à ce niveau-là, on a personne qui va nous écouter, qui va nous dire, enfin, quand on va leur parler de placement abusif, qui vont nous dire, oui, bon, alors il faut faire ça. S'il y a un truc qui ne va pas, il faut faire ça. Non, personne ne nous dit quoi faire. Hein. Même au niveau, je ne sais pas, par exemple, maison de justice, CDAD, des choses que normalement sont d'intérêt public pour trouver des solutions, savoir nos droits et tout ça. Enfin, vraiment, il y a au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. C'est ce que déplorent tous ces parents. Donc c'est pour ça en fait qu'on s'alarme quand même au jour d'aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de parents. Il y en a déjà énormément. Et les jours passent et il y en a de plus en plus. Donc c'est déjà un gros problème à l'heure actuelle, mais ça ne fait qu'empirer. Surtout qu'en ce moment, il y a des propositions de loi pour la protection de l'enfance. Il y a déjà de grosses dérives qui sont pas. Les problèmes ne sont pas posés. On ne trouve pas de solution déjà à ces dérives, à ces abus. Et maintenant, ils nous rajoutent des propositions de loi qui n'arrangeront pas ces parents qui sont victimes de placements abusifs. Donc c'est là
Qu'est-ce
qu'est.
que vous conseillez, vous, en tant que collectif, aux parents qui rencontrent les premiers problèmes avec l'ASE? Vous leur
Les
conseillez quoi?
prémices.
Les prémices, vous leur conseillez de prendre un avocat immédiatement?
Alors déjà, dans les prémices, il faut savoir que c'est l'information préoccupante. Donc au début, c'est une enquête. Donc l'avocat ne fait rien au niveau de l'enquête. Il faut laisser passer l'enquête. Alors, mais déjà, en tant que parent, quand on a affaire à les intervenants sociaux, il faut savoir que, y a des faux en écriture, des faux rapports. Donc pour se prémunir de ça, déjà, il faudrait avoir des gens qui nous accompagnent. Et ça, c'est dans la loi, c'est inscrit, on a le droit d'avoir un accompagnement, quel qu'il soit, n'importe qui. Ça
On a
peut
le
être un
droit, mais c'est
avocat, un
pas
ami de la
obligé,
famille.
en fait. C'est ça
Par
qui
contre,
est...
c'est pas obligé, on nous dit pas nos droits en fait.
D'accord.
On nous dit pas dans quoi on met les pieds. Et c'est ça le problème justement, on n'est pas prémunis
On
à
n'est pas
ça.
assez accompagné, en tout cas. On va marquer une petite
Voilà.
pause, si vous le voulez bien, et
D'accord, il
puis
n'y a pas de
on se
souci.
retrouve tout de suite. À tout de suite, Magali.
D'accord, entendu.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h29 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez continuer à nous appeler au 3921 si vous désirez bien évidemment nous parler, chers amis. Pour le moment, nous sommes avec Lucie qui évoque les prémices lorsque des parents font l'objet d'un signalement. En tout cas, vous parliez pas d'un signalement, d'un terme plus précis tout à l'heure, Lucie. Quel était-il?
L'information préoccupante, en fait,
Information préoccupante, oui. Qu'est-ce que
c'est
c'est?
la base. C'est le signalement, en fait. Ça revient au même. Un signalement, ça débouche à une information préoccupante en général. Quand on vous dit d'appeler le 119, bah, c'est un signalement et puis ça débouche sur une information préoccupante qui s'envoie directement à la CRIP et la CRIP recueille justement toutes ces informations préoccupantes et fait les démarches administratives qui est de prendre contact avec des assistantes sociales qui vont être des enquêteurs sociaux et faire voilà leur travail.
Et vous reprochez quoi en fait? Qu'il n'y ait pas assez de surveillance lors de
Alors,
ces rapports, de ces
oui,
signalements, ces premiers
c'est ça.
signalements?
Alors c'est ça. En fait, quand on a un signalement, déjà, faut savoir qu'on n'a pas accès à ce signalement en tant que parent, on nous informe avec un courrier qu'on est dans le cadre d'une information préoccupante. Donc on doit en fait montrer pâle blanche, montrer que tout est rose entre guillemets dans notre famille. Donc le gros problème, c'est qu'il y a des abus déjà à ce niveau, à ces prémices. Déjà le signalement peut être abusif, ça veut dire que ça peut être n'importe quel voisin, ça peut être un délit de faciès ou n'importe quoi, enfin vous lui revenez pas quoi, si on peut dire, ou n'importe quoi d'autre quoi, mais n'importe qui peut faire un signalement. Et à ce moment-là, ça s'enchaîne et l'information préoccupante est là et va falloir prouver que vous n'êtes pas un mauvais parent. Donc si vous êtes seul au premier rendez-vous déjà, il se peut que vos propos soient déjà déformés et qu'ils se retournent contre vous. Donc déjà, c'est pour ça que je propose d'être accompagné. Et vraiment, la solution ultime qu'il faudrait, c'est de pouvoir enregistrer tout cela. Parce que c'est une preuve. Un enregistrement, c'est une preuve.
Oui, mais ça va être compliqué, je pense. Je ne sais pas si c'est autorisé.
Non, mais non, bien sûr que non. Ce n'est pas autorisé. Mais vu que c'est public, en fait, public. Non, on ne va pas le diffuser à tort et à travers, mais je veux dire que, en fait, c'est des fonctions publiques.
Oui, c'est en public, en tout cas, ça réunit des gens. Bon, oui, d'accord.
C'est ça que je veux dire. Donc, c'est des fonctionnaires, si je peux dire. Donc, tout ça, en fait, ça devrait être clair, hein. Il ne devrait pas y avoir de secret, il ne devrait pas y avoir de... En fait, on a l'impression qu'on a affaire à des escroqueries, puisqu'il y a des faux en écriture, des faux rapports. Hein. Ça devrait être des gens sérieux, très professionnels. Ils ne peuvent pas dire des mots n'importe comment. Ils ne peuvent pas retracer ce qui a été dit.
Ce qui est certain, en tout cas, Magali, c'est que vous évoquez... Oui. Vous évoquez aujourd'hui, ce soir, des pratiques qui semblent poser vraiment problème à beaucoup de parents, oui. Y compris dans des informations inquiétantes ou des signalements, et qui peuvent aboutir, bien évidemment, pour ces parents, à un placement des enfants. Et que il s'agit du destin de ses enfants et, bien évidemment, du destin de ses parents. Donc, il faut être extrêmement précautionneux et il est certain qu'aujourd'hui, le système est fait de telle manière que c'est souvent une personne qui décide et qui va faire ce rapport et qu'on va se fier pendant longtemps, voire des mois, voire des années à ce premier rapport ou ces rapports qui s'enchaînent. Et que il serait bon, on l'a dit sur cette antenne, au moins qu'il y ait un autre rapport qui puisse venir confirmer ou infirmer ce qui a été fait dans le premier. En tout cas, qu'il y ait deux rapports pourrait permettre d'avoir un avis plus précis sur la situation plutôt qu'une personne où, bien évidemment, peuvent se jouer des interférences entre les parents et cette personne. On sait que ce sont souvent des situations difficiles, donc qui peuvent être explosives ou très tendues, et la perception de l'éducateur ou de l'éducatrice qui va faire ce premier rapport peut être biaisée, en tout cas, parce que la situation est compliquée. On évoque souvent ça sur cette antenne, on le réclame souvent. Et ce soir, c'est un peu ce que vous nous avez livré, Magali.
Oui.
Donc, merci à vous, en tout cas, pour avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Comment s'appelle votre collectif ?
Unis en tant que parents.
Comment ? Pardonnez-moi ?
Unis en tant que parents ou, si vous voulez, collectif de parents unis. Si vous, je ne sais pas ce qui sonne le mieux. Mais...
Collectif de parents unis. Et ce collectif, il existe depuis combien de temps, en fait, maintenant ?
C'est très récent. C'est pour ça que, de toute façon, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression que vous connaissez un petit peu tout ce qui est un peu du placement abusif. J'imagine que vous voyez un petit peu la montagne que c'est. Il y a vraiment... il y a vraiment des choses à refaire ce qui entoure, au niveau de la... Voilà.
Tout ce qui entoure le placement d'un enfant ou d'enfants, même d'une fratrie, oui. Bien évidemment, c'est sensible. Hein.
C'est beaucoup de travail.
On peut aussi
comprendre
que du côté des éducateurs, il y a aussi un devoir de précaution, hein, puisqu'il s'agit de la sécurité d'enfants et de préserver hein, l'intégrité d'enfants. On a Christelle qui est en ligne, si vous voulez bien, Magali, on va l'accueillir. Christelle qui, je crois, est assistante sociale et qui voulait intervenir suite à vos propos. Bonsoir Christelle.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Vous voulez intervenir ?
Excusez-moi, je prends un petit peu en cours, hein, mais si j'ai bien... J'ai bien compris, vous échangez au sujet des placements abusifs dont madame aurait été victime a priori.
Non, pas de placement. J'ai pas évoqué ma situation personnelle. Non.
D'accord, pas de placement abusif. D'accord, parce que j'avais entendu ce terme à plusieurs reprises.
Non, mais
je me demandais si c'était votre situation personnelle.
Magali
d'accord,
a évoqué plusieurs parents qui ont été victimes de placements abusifs. Enfin, dit
d'accord,
abusifs.
D'accord,
hein.
Ok, non, c'est important de remettre le cadre. Je voulais rappeler, moi j'ai fait ça pendant 17 ans, je suis assistante sociale, j'ai été assistante sociale pour un département, avec effectivement des évaluations à faire dans le cadre de la protection de l'enfance, et c'est pas du tout la réalité que j'ai ressentie sur le terrain. Enfin, s'il y a des placements abusifs, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Et quand il y a des mesures de placement qui sont prononcées, c'est que vraiment il y a une nécessité de séparer les parents et les enfants pendant au moins un temps donné, le temps que les relations
Mais pour reviennent. Mais pour vous, Christelle, évidemment, il y a la plupart des situations nécessitent de protéger ces enfants, mais vous n'avez jamais, en 17 ans, assisté à des placements qui vous semblaient un peu tendancieux.
Non, vraiment, et pour le coup, en toute sincérité, jamais. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le coût d'un placement, bon, si on veut être très trivial, je crois que c'est entre 30 et 40 000 euros par an pour un enfant. Donc, il faut aussi comprendre que les juges ne prennent pas des décisions comme ça à la légère, parce que mine de rien, ça coûte aussi beaucoup, beaucoup d'argent.
Oui.
Voilà, si on met à côté la priorité qui est bien sûr le bien-être de l'enfant, mais ce sont des mesures qui coûtent très cher et qui sont prises vraiment quand il y a vraiment une extrême nécessité et qu'aucune solution n'a pu être trouvée au préalable. Nous, c'est vrai que quand on faisait des évaluations protection de l'enfance, alors on les fait toujours à deux, effectivement, suite à une information préoccupante qui nous est parvenue.
Oui, vous le faites
c'est
à deux
un...
À deux.
Oui.
D'accord.
Oui, toujours un regard croisé.
Ça a toujours été le cas, ça, Christelle ?
En tout cas, oui, moi j'ai toujours vu. Et puis, on agit aussi dans le cadre de la loi de 2007, où l'objectif, c'est de maintenir... le plus possible le lien entre le parent et l'enfant. Donc on n'est pas dans une logique de séparation à tout prix et de placement abusif, bien au contraire. Notre boulot, c'est de faire en sorte de maintenir le lien et d'aider ces familles à faire en sorte que de protéger l'enfant sans le séparer de ses enfants tant que possible, quoi.
Magali, vous voulez réagir au propos de Christelle ?
Alors... Il y aurait tellement à dire, hein, je pense que il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors moi, pour revenir un peu au contexte que j'avais appelé, je parle pas de ma situation personnelle, mais ce que j'avais vécu récemment. Donc moi, j'avais mis mon numéro parce que j'avais cherché du soutien de parents qui vivaient un peu ça pour trouver des solutions. Et en 2-3 mois, j'ai eu une centaine de parents qui m'ont témoigné de placements abusifs. Une centaine.
C'est alors, est-ce que...
Oui.
Alors, je nie pas du tout, encore une fois, hein, je pense que ça peut malheureusement arriver, mais est-ce que aussi, quand on est parent et qu'on est séparé de son enfant, est-ce que c'est pas aussi très dur de l'accepter et d'entendre.
Bien sûr que si. Moi, je pense que si.
Voilà. Est-ce que c'est pas aussi un système de défense de dire mais non, en fait, ils ont rien compris, ils ont mal évalué, voilà, le placement n'est pas du tout justifié.
Alors, ça peut être ça aussi. Je peux vous répondre avec des cas très concrets. Je peux vous dire que tout simplement, beaucoup de parents qui témoignent disent que le jour du jugement d'audience qui est rendu, la conclusion est telle qu'il n'y a pas de motif de placement réel. Même le parent qui va demander en face à la juge, mais en fait, pourquoi vous voulez placer mon enfant ? Ne répond pas. Ça veut dire que quand il y a la décision de justice, l'ordonnance, il n'y a pas de motif de placement dedans. C'est vraiment que, si je parle de placement abusif, c'est vraiment que le placement est abusif.
Ça peut arriver, ça, Christelle ?
Il n'y a pas de raison.
La décision est évidemment motivée par le juge et puis après est reprise après l'audience par le personnel. Que ce soit les assistants sociaux, pardon, ou le personnel ou nos collègues éducateurs, ça c'est un travail après qui est repris. Alors qu'il y a chaud, évidemment, lors de l'audience, évidemment que le juge justifie sa décision. Il explique, il donne les arguments, il est obligé de le motiver, bien sûr. Et après, tout le long de la mesure, on reprend ces éléments et on travaille dessus. Ça sert de base de travail. Dans l'intérêt des familles.
Bon, en tout cas, on aura compris que... Merci Christelle pour votre intervention.
De rien.
Mais on aura compris en vous écoutant l'une et l'autre que il y a beaucoup de passion. Comme vous l'avez dit, Christelle, il est certain que quand des parents sont séparés de leurs enfants, c'est une décision extrêmement difficile à accepter.
Bien sûr.
Maintenant, voilà, je pense que Magali, vous avez aussi des cas dans le collectif qui devraient en tout cas être revus ou peut-être jugés parce qu'on entend, Christelle, parler quand même de placement abusif. Il y a eu quelques jugements qui ont été un peu hâtif, avec une justice qui est un peu débordée.
Bien sûr que dans tout système, il y a des failles et que certainement qu'il y a eu des cas, mais j'avais l'impression que, ça représente, à entendre, encore une fois, j'ai pris vraiment en cours, que ça représentait énormément de cas et voilà, je me suis sentie un petit peu obligée d'intervenir.
Concernée.
Pas du tout, très concernée et au contraire, on tient à croiser les regards dans le cadre des évaluations, on est toujours à deux, on fait vraiment attention, on informe les parents sur leurs droits et tout ça. Et je ne me suis pas du tout reconnue dans ce que j'entendais.
D'accord.
Et alors, voilà, ça me tenait à cœur de...
On va marquer une petite pause parce que j'ai encore une question à vous poser. Vous restez avec moi toutes les deux et puis on se retrouve tout de suite après.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h45 sur Europe et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Christelle, ça a souvent été évoqué par des parents qui téléphonaient sur cette antenne. Des parents se sont souvent plaints du fait que un seul éducateur les suivait et finalement avait un pouvoir, un super pouvoir sur leur destin, puisque c'est... Est-ce que lorsque vous évoquez ce regard croisé, c'est au début simplement de l'information, mais après, est-ce qu'il n'y a plus qu'un éducateur ?
Alors, la mesure éducative après, effectivement, est confiée à un éducateur ou une éducatrice. Moi, en tant qu'assistante sociale, je restais souvent aussi référente des parents. Enfin, si vous voulez, l'un était plus référent, les collègues de l'ASE, plus du côté de l'enfant, enfin de la famille et de l'enfant, et moi plus des parents. On restait quand même en lien.
D'accord.
On restait quand même en lien, mais légalement, le référent reste effectivement l'éducateur de l'aide sociale à l'enfant.
Mmh. Ça paraissait gêner pas mal les parents de n'avoir qu'un référent plutôt que d'en avoir deux. Justement pour continuer d'avoir ce
alors,
regard
oui,
croisé, ce contre-pouvoir, en tout cas ce contre ces idées en fait qu'on pouvait confronter.
En tout cas, l'évaluation de départ, elle est faite par deux professionnels. La décision est donnée par le juge Et après, les familles peuvent aussi demander à être reçues par, par quelqu'un d'autre, avoir la, la direction.
D'accord, très bien.
Il y a des choses... Il y a des choses possibles.
Très bien. Mille merci en tout cas à toutes les deux pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci Magali.
Merci.
Et puis passez une bonne soirée, mesdames.
Également. Au revoir. Au revoir.